VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Un juge demande le transfert de Félicien Kabuga, financier présumé du génocide rwandais, à Arusha. Au moins 60 morts au Nigeria après des attaques d'hommes armés et en moto contre plusieurs villages dans le nord-ouest. Nous ferons le point sur la pandémie du coronavirus dans le monde. La barre des 100 000 victimes a été passée aux États-Unis. Le Parlement chinois engage la reprise en main de Hong Kong malgré la menace de sanctions américaines. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au Nigeria, des hommes armés et en moto ont tué des dizaines de personnes dans une série d'attaques contre des villages du nord-ouest du pays, près de la frontière avec le Niger. Nous faisons le point avec Ekiabadou.
Des dizaines d'hommes armés, décrits localement comme des bandits, ont effectué hier soir une descente dans 5 villages de l'état de Sokoto, près de la frontière avec le Niger. Lawal Kakale, chef de village de Sabombirni, a déclaré que le nombre de morts était passé à 74 contre 60 antérieurement. Il précise que les gens ont fui dans toutes les directions et ont été poursuivis par les assaillants. Les cadavres ont donc été dispersés. Les médecins de l'hôpital voisin ont déclaré qu'ils avaient initialement reçu 60 cadavres blessés par balle. Le gouverneur de la région, Aminu Waziri Tambuwal, a déclaré que l'attaque était un camouflet car les responsables de la sécurité s'étaient récemment rendus dans la région pour tenter de calmer les tensions. Le nord-ouest du Nigeria a été le théâtre pendant des années d'affrontements entre des communautés rivales, d'attaques de gangs lourdement armés et de représailles des groupes d'autodéfense.
Au Sénégal, 3 volontaires de la Croix-Rouge ont été blessés par des projectiles lancés par des jeunes hier dans la banlieue de Dakar après avoir inhumé une personne contaminée par le coronavirus. Des véhicules de la Croix-Rouge et des pompiers, dont une ambulance, ont été caillassés. Un incident similaire est survenu mardi à Malika où les pompiers ont dû renoncer à enterrer un mort. Les habitants s'opposent aux enterrements des morts du coronavirus par peur de contracter la maladie. Au Burundi, le principal parti d'opposition a déposé un dossier devant la Cour constitutionnelle pour contester les résultats d'une élection présidentielle qui, selon lui, a été truffée de fraudes et d'irrégularités. Lundi, la commission électorale a annoncé que le candidat du parti au pouvoir, Évariste Ndayishimiye, avait remporté le vote avec 68,72%, tandis que le Conseil national de la liberté du chef de l'opposition, Agathon Rwasa, suivait avec 24,19% des voix. Le financier présumé du génocide rwandais, Félicien Kabuga, devra être transféré à Arusha quand les conditions seront réunies. C'est ce qu'a déclaré jeudi un juge du mécanisme des tribunaux pénaux internationaux à La Haye, Eric Manirakiza.
Selon le juge William Sekoulé, la règle indique que des accusés inculpés par le TPIR, Tribunal pénal international pour le Rwanda, tels que Félicien Kabuga, soit transféré et détenu à la branche d'Arusha en Tanzanie et que des procédures soient conduites là-bas. Le juge répondait à une demande du procureur du mécanisme des tribunaux pénaux internationaux qui souhaitait le transfert temporaire de M. Kabuga à La Haye compte tenu des restrictions de voyage mises en place à cause de la pandémie de Covid-19. Arrêté le 16 mai en banlieue parisienne après 25 ans de cavale, M. Kabuga a indiqué vouloir être jugé en France. Ses avocats ont bataillé mercredi devant la Cour d'appel de Paris pour tenter de s'opposer à la remise à la justice internationale de l'octogénaire. La chambre de l'instruction qui doit examiner la validité du mandat d'arrêt a annoncé qu'elle rendrait sa décision le 3 juin avant un ultime recours possible devant la Cour de cassation. Le mandat d'arrêt actuel du mécanisme des tribunaux pénaux internationaux prévoit le transfert de M. Kabuga à Arusha.
La justice rwandaise a condamné aujourd'hui à la perpétuité Ladislas Ntaganzwa, un ancien maire qui avait été mis en accusation par la justice internationale pour son rôle présumé dans les génocides des Tutsis en 1994, avant d'être renvoyé devant les tribunaux rwandais. Il avait été arrêté en 2015 dans l'est de la République démocratique du Congo, 19 ans après avoir été mis en accusation par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Dans l'extrême nord du Mozambique, une nouvelle opération d'envergure a été menée par les djihadistes en attaquant la ville de Macomia, causant de nombreux dégâts. Ils ont envahi dans la nuit de mercredi à jeudi la ville, qui compte plusieurs milliers d'habitants, et contraint à la fuite la population et des forces de sécurité. Des renforts issus de compagnies militaires privées équipées d'hélicoptères sont intervenus quelques heures plus tard et ont repris le contrôle de la ville. Des bâtiments publics de Macomia ont été détruits et le réseau téléphonique local coupé. Toujours au Mozambique, le parquet a requis des condamnations exemplaires contre 6 policiers accusés de l'assassinat d'Anastasio Matavele, figure de la société civile à la veille des élections d'octobre dernier. Dans son réquisitoire, le procureur a toutefois écarté la responsabilité de l'État. Au Zimbabwe, 3 jeunes militantes de l'opposition qui accusent la police de les avoir torturées ont été inculpées d'incitation à la violence sur la voie publique et remises jeudi en liberté conditionnelle. Elles avaient disparu le 13 mai à Harare lors d'une manifestation organisée par leur formation. Elles avaient été retrouvées 2 jours plus tard blessées en bordure d'une route des faubourgs de la capitale.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Assemblée nationale populaire chinoise a adopté aujourd'hui une disposition controversée sur la sécurité nationale à Hong Kong en réaction aux manifestations de l'an dernier malgré la menace de sanctions américaines. Nanit Talani.
La majorité des députés du Parlement chinois ont adopté la mesure en présence du président Xi Jinping. Cette loi devra empêcher, stopper et réprimer toute action qui menace gravement la sécurité nationale, comme le séparatisme, la subversion, la préparation ou la commission d'activités terroristes, ainsi que les activités des forces étrangères qui constituent une ingérence dans les affaires de Hong Kong. La nouvelle loi a déjà provoqué un regain d'agitation à Hong Kong. La Chine en a fait une priorité après les manifestations monstres de 2019 contre le pouvoir central. Les manifestants affirment que la mesure ouvre la voie à une régression sans précédent des libertés dans la région autonome de 7 millions d'habitants. Dans le camp pro-Pékin, en revanche, la chef de l'exécutif hongkongais a promis de renforcer l'application de la loi pour défendre la sécurité nationale. Le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et l'Australie ont accusé Pékin d'enfreindre ses obligations. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a annoncé mercredi au Congrès qu'il ne considérait plus Hong Kong comme un territoire autonome vis-à-vis de Pékin. L'administration Trump peut désormais mettre fin au statut commercial préférentiel accordé à l'ex-colonie britannique, mais n'a pas encore dit si Washington mettra sa menace à exécution.
La pandémie de coronavirus a fait plus de 355 000 morts dans le monde, où 5,7 millions de cas ont été diagnostiqués. Les États-Unis ont passé la barre des 100 000 morts sur près de 1,7 million de cas, selon l'université Johns Hopkins. Nathalie Barge.
Le président américain Donald Trump a présenté ses condoléances aux proches des 100 000 morts du coronavirus après le franchissement hier de ce seuil tragique. Selon des estimations de l'Université du Massachusetts, le nombre de décès devrait avoisiner les 123 000 morts aux États-Unis d'ici le 20 juin. En Amérique centrale, le Brésil a dépassé 1000 morts en une journée pour la 5e fois. L'État de Sao Paulo a annoncé la reprise de certaines activités à partir de lundi. Les autorités de Corée du Sud ont fait état de 79 nouveaux cas en une journée, dont 69 dans une entreprise près de Séoul. En Europe, le déconfinement se poursuit et s'accélère. La Commission européenne a dévoilé un plan de relance de 750 milliards d'euros. Au Sénégal, des habitants se sont opposés à l'enterrement de morts du coronavirus par peur de contracter la maladie. 3 volontaires de la Croix-Rouge ont été blessés par des projectiles lancés par des jeunes hier dans la banlieue de Dakar.
Aux États-Unis, le nombre de chômeurs indemnisés a baissé pour la première fois depuis le début de la crise du Covid-19, mais reste à un niveau historiquement élevé. Plus de 21 millions d'Américains ont touché une allocation chômage au cours de la semaine du 10 au 16 mai, selon les chiffres publiés aujourd'hui par le département du travail, contre 24,9 millions de personnes la semaine précédente. Pour comparaison, le niveau d'avant la pandémie tournait autour de 1,7 million. L'ambassade américaine à Jérusalem appelle ses ressortissants à faire preuve d'un haut degré de vigilance en cas de déplacement dans les territoires palestiniens, dans une alerte de sécurité diffusée jeudi après de nouvelles déclarations sur le projet d'annexion de pans de la Cisjordanie par Israël. En Afghanistan, 14 membres des forces de sécurité ont été tués dans deux attaques imputées aux talibans 2 jours après l'expiration d'un cessez-le-feu décrété par les insurgés à l'occasion de la fin du Ramadan. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
Au Niger, l'ONG Alternative Espace Citoyen exige toute la lumière sur les surfacturations et livraisons non effectuées lors d'achats d'équipements militaires ces dernières années. Pour l'ONG, tous ceux qui de près ou de loin sont impliqués doivent rembourser l'intégralité des sommes indûment perçues et répondre pénalement de leurs actes. D'après des extraits d'un audit, ces malversations ont causé un manque à gagner de plus de 76 milliards de francs CFA à l'État nigérien entre 2017 et 2019. La femme d'affaires angolaise Isabelle de Santos et son mari ont sollicité l'annulation du gel de leurs avoirs dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds publics évaluée par le gouvernement de Luanda à environ 5 milliards de dollars. Début mai, Isabelle de Santos a accusé l'État angolais d'avoir falsifié des pièces à conviction contre elle. L'avocat du couple, Walter Tondela, vient donc de saisir le Conseil supérieur angolais de la magistrature pour contester la saisie des avoirs. Pour terminer, les administrateurs de South African Airways ont déclaré que la compagnie aérienne ne vise pas à reprendre les vols intérieurs à partir de la mi-juin, contrairement à une déclaration de la compagnie de mercredi disant que les vols pourraient reprendre le mois prochain. Pour les administrateurs, l'arrêt des vols reste maintenu et toute reprise demeure très liée au financement futur de la société. South African Airways a suspendu tous les vols commerciaux de passagers fin mars lorsque le gouvernement a imposé le confinement pour endiguer le coronavirus.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Sadio Mané, Mohamed Salah, Naby Keita, Ismaël Assar et autres Africains évoluant en Première Ligue vont reprendre la compétition le 17 juin, plus de 3 mois après la suspension du championnat à cause du nouveau coronavirus. Aucun match n'a été joué depuis la victoire 4-0 de Leicester sur Aston Villa le 9 mars. 2 matchs en retard, dont un opposant Manchester City à Arsenal, seront disputés le mercredi 17 pour mettre à jour le calendrier et les 10 rencontres de la 30e journée seront ensuite repartis entre le vendredi 19 et le dimanche 21. Les 20 clubs de Première Ligue doivent encore discuter du reste du calendrier avant de finaliser la décision par un vote. Mais un accord de principe a été trouvé sur cette date. Mercredi, le championnat anglais a fait un grand pas vers la reprise en autorisant à nouveau les entraînements avec contact. Parlons à présent de dopage et de corruption. Le début du procès de l'ancien patron de la Fédération internationale d'athlétisme, Lamine Diack, de son fils Papa Massata et de 4 autres acteurs a été décalé du 3 au 8 juin. Le procès devant la 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris se déroulera sur 6 jours. À 86 ans, Lamine Diack doit répondre de présumées corruptions actives et passives, abus de confiance et blanchiment en bande organisée. Parmi les autres prévenus figurent son fils et ancien conseiller spécial pour le marketing à l'I2AF, Papa Massata Diack, réfugié à Dakar depuis l'arrestation de son père en novembre 2015. Tous sont soupçonnés d'avoir participé à un système de corruption à partir de 2011, permettant à des athlètes russes dopés d'échapper, au moins pour un temps, à toute sanction disciplinaire contre des pots de vin. Ici aux États-Unis, le football professionnel va reprendre à huis clos dès le 27 juin. La Ligue féminine a annoncé la tenue d'un tournoi baptisé Challenge Cup dans le Utah, auquel participeront ces 9 clubs dont l'OL règne de la star Megan Rapinoe. Les 25 matchs qui seront télévisés se dérouleront tous à Zions Bank Stadium à Erriman, sauf les demi-finales et la finale qui aura lieu le 26 juillet
au stade Rio Tinto dans la banlieue de Salt Lake City. La ligue masculine, elle, flanche encore à une reprise du jeu envisagée à Disney World en juillet sous forme d'un tournoi. Mardi, la NHL a aussi officialisé la reprise de sa saison de hockey sur glace, mais sans dire quand ni où.
Merci à toi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. Twitter a signalé des messages du président américain Donald Trump en ajoutant la mention « Vérifiez les faits ». Une décision prise après des tweets de M. Trump affirmant que le vote par correspondance était frauduleux car sujet aux manipulations. Le vote à distance est une question d'actualité aux États-Unis où la pandémie de coronavirus fait peser le doute sur l'organisation de la présidentielle du 3 novembre. Nathalie Barge a joint Commis Afetse, officier de cyberdéfense au Pentagone, qui a l'habitude de voter par correspondance dans le Maryland.
Oui, voter par correspondance, c'est-à-dire avoir le bulletin dans ta boîte postale et remplir ça et renvoyer, c'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps. Et moi, j'ai l'habitude de faire ça parce que souvent, les jours d'élection, si je ne suis pas là ou je ne suis pas libre, je voudrais toujours m'assurer que mon vote est compté. Donc, je demande à ce que le board des élections m'envoie le bulletin à la maison. Je remplis ça et puis je le renvoie. C'est aussi simple que ça. Mais avant de pouvoir obtenir le bulletin, tu dois déjà être enregistré comme votant et en présentant tes pièces d'identité comme quoi tu es citoyen et que tu es autorisé à voter.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler notamment de problèmes de fraude par rapport à ce système?
Il y avait eu des allégations, c'est-à-dire que si par exemple quelqu'un est décédé et que la personne avait l'habitude de voter par mail, on a toujours envoyé le bulletin et que peut-être d'autres personnes vont remplir le bulletin à sa place. Mais c'était des allégations qui, à la fin, n'ont pas été vraiment confirmées qu'il y avait eu certains de ces cas de fraude par mail.
Alors cela étant, hein, quasiment tous les États le font, notamment dans le cas de dérogation, comme vous l'avez précisé, hein, parfois on ne peut pas se déplacer pour diverses raisons pour aller voter. Est-ce que vous pensez que cela serait compliqué si c'était fait à la présidentielle du 3 novembre, par exemple, parce qu'on vote dans notre État en général?
Oui, nous votons dans nos États et pour la présidentielle, chaque État gère ses votants et puis le nombre d'inscrits et la liste des votants. Donc, c'est un système déjà un peu compliqué, mais ils ont essayé de simplifier ça. Je vous dis, par exemple, que nous avions toujours l'habitude de voter dans les présidentielles, par bulletin d'absence bien avant. Par exemple, les soldats qui sont à l'étranger, qui travaillent pour le gouvernement américain, qui sont à l'étranger, ont cette possibilité toujours de remplir le bulletin et de l'envoyer dans leur état pour que ça soit compté. Donc c'est un système déjà en place. Sauf que pour ces élections de 2020, presque une grande moitié de l'électorat peut le faire à la maison, ce qui est vraiment une première fois, celle de là où provient un peu des doutes, mais c'est un système qui est déjà testé avant et qui a fait ses preuves.
Commis Afetse, originaire du Togo, il était joint dans le Maryland, ici aux États-Unis. Au Tchad, les malades guéris du Covid-19 sont stigmatisés et marginalisés par leur entourage et quelquefois par leurs propres parents. Même certains agents de santé qui ont été contaminés en plein exercice de leurs fonctions ne sont pas épargnés. Des malades guéris sont rejetés par leur famille et trouvent refuge dans les lieux de culte. André Komadjingar, correspondante VOA Afrique, fait le point depuis N'Djamena.
Toutes les fois que je sors au quartier, les gens m'appellent coronavirus, Covid-19, et puis voilà, en termes de moquerie. Et j'ai vraiment honte de moi-même.
Mathias Durand, étudiant en quatrième année de droit à l'université de N'Djamena, il avait été déclaré positif au Covid-19 après avoir été en contact avec un malade dans un hôtel de la place. Après une prise en charge rapide, il vient d'être déclaré guéri par les autorités médicales. Attestation en main, il devient SDF, sans domicile fixe.
Je suis rejeté par ma famille qui s'est dit avoir subi beaucoup de préjudices à cause de moi. Donc je quittais ici, venir à l'église, trouver mon pasteur qui m'a aussitôt accordé l'hospitalité. Mais ce que j'aimerais demander au gouvernement, c'est d'accorder vraiment une protection juridique en faveur des personnes qui sont victimes du Covid.
Abazen, oncle de la victime, affirme que sa famille était confinée à cause de lui pendant 14 jours et il considère cela comme une humiliation.
Pendant le mois où nous on était confinés, les gens m'appelaient partout que j'ai des malades chez moi. Mais malades, est-ce qu'ils sont guéris? Moi, j'ai quel malade chez moi?
Est-ce que Covid-19 c'est une maladie de honte.
Non, c'est la manière où il est parti. C'est ça qui m'a simplement découragé. Sinon, moi, je ne peux pas dire que Covid-19 est une maladie de honte, non.
Profitant de la fermeture de lieu de culte, Mathias Durand a élu domicile depuis plus de 3 semaines dans une église de la place.
Je l'ai accueilli parce que c'est un humain aussi comme moi. Je n'avais peur de rien.
Bamaré Jacques, apôtre de l'Assemblée évangélique des Pentecôtes du Tchad, il dit avoir accueilli le jeune homme par compassion.
Si je le rejette, ça veut dire que je n'accomplis pas ma mission. Et encore pas avoir confiance à ceux qui l'ont traité, les médecins qui l'ont donné l'attestation attestant qu'il est guéri. Aussi, il faut reconnaître que Corona n'est pas au-dessus de Dieu aussi, parce que Dieu qui détient le souffle de vie. Je lance l'appel à tous les frères, à tous les Tchadiens, ceux-là, pour pas y en rejeter.
Comme lui, Mangel Souban, béni technicien supérieur en soins infirmiers guéri après s'être infecté dans le cadre de la prise en charge d'un patient qui avait cette maladie, affirme à VOA Afrique qu'il est souvent stigmatisé par ses collègues.
Il se méfie de moi, d'autres m'appellent Corona. Même hier, j'étais au boulot, il y a un infirmier qui m'a appelé Corona. J'étais choqué. Aujourd'hui même, je suis allé pour dire, mais qu'est-ce que j'ai fait du mal pour qu'on m'appelle Corona? Il continue à m'appeler Corona. J'étais découragé, j'ai compris que c'est par l'ignorance, il n'a pas la déontologie médicale. C'est pour cela qu'il m'a appelé en vue de me décourager.
Pour Bessimbaï Nadla, chef de service du laboratoire à l'hôpital général de référence nationale, ces personnes guéries ne présentent aucun risque pour leur entourage.
À ma connaissance en virologie, lorsque tu fais une maladie et que tu es guéri par réaction anticorps, il y a certains des anticorps là qui circulent dans le sang après guérison. Même si c'est quelques années après, la même maladie peut venir. Les anticorps qui sont là, ils connaissent l'empreinte déjà de cette maladie. Ils vont réagir automatiquement pour l'éliminer. Donc, tu ne peux pas faire la maladie. C'est ceux qui n'ont pas encore fait la maladie, là, c'est eux qui vont s'inquiéter.
Beaucoup de malades guéris subissent le même sort, mais refusent de s'ouvrir aux médias. André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
L'Afrique du Sud, deuxième économie du continent, est un aimant pour des millions de migrants. Le pays compte plus de 4 millions d'étrangers vivant de l'économie informelle qui s'est asséchée à cause du confinement. Ces migrants illégaux, pour la plupart, ne peuvent pas accéder non plus aux aides du gouvernement et survivent grâce au soutien d'ONG et d'organisations religieuses. Yacouba Ouedraogo.
Elle est une immigrée éthiopienne et a souhaité ne pas révéler son identité par souci de sécurité. À 47 ans, cette mère célibataire qui a fui la répression dans son pays vit à Johannesburg avec ses 3 enfants, sans permis de séjour depuis 2008. Vivotant avant le nouveau coronavirus grâce à de petits boulots, elle s'est retrouvée sans travail depuis que le gouvernement a décrété le confinement. Pas de boulot, pas de papier, elle ne peut pas accéder aux aides sociales. Son salut, elle le doit au mois de Ramadan.
Heureusement, nous sommes entrés en confinement en plein Ramadan. Les membres de la communauté musulmane ont une culture d'assistance. Parfois, les gens reçoivent des informations selon lesquelles je ne travaille pas, que j'ai des enfants et je suis une mère célibataire et ils m'apportent de la nourriture.
Affamés, la plupart des immigrés sans boulot et sans papier survivent grâce à des aides des organisations comme celle d'Amir Sheikh. Il dirige le Forum de la diaspora africaine en Afrique du Sud. Financé par des organisations religieuses, son réseau fournit 3500 kits de vivres et 750 repas par semaine, pas seulement à des étrangers, mais aussi à des citoyens sud-africains, à son avis, plus sociables que leurs dirigeants. Amir
Sheikh.
Le gouvernement de l'Afrique du Sud est beaucoup plus xénophobe que la communauté locale. Nous sommes acceptés par les communautés locales. Nous coexistons avec elles. Et même aujourd'hui, vous avez vu que nous leur avons donné des kits alimentaires. Alors, nous n'avons pas beaucoup de problèmes. Mais ce sont les représentants du gouvernement, en particulier les hauts fonctionnaires, qui créent en fait cette tension au sein des communautés. Pourtant, dans le cadre d'un plan d'urgence, le président Cyril Ramaphosa a annoncé des distributions de vivres et une allocation mensuelle de 20 dollars pour les plus démunis. Ni Ramaphosa ni ses ministres n'ont mentionné de conditions pour la nationalité des bénéficiaires de l'aide. Mais dans les faits, les migrants et les ONG constatent que ce soutien va de facto aux citoyens sud-africains. Jessica Lawrence, avocate des droits humains.
Nous avons un grand nombre de citoyens sud-africains qui ne peuvent pas non plus accéder aux aides. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est une réponse du gouvernement qui ne fasse pas de distinction ou de discrimination à l'égard des gens sur la base de la documentation.
Pour sa défense, le gouvernement de ce pays, considéré par la Banque mondiale comme le plus inégalitaire au monde, affirme n'avoir exigé aucune preuve d'identité des bénéficiaires, mais de nombreux immigrants illégaux préfèrent garder leur distance par rapport à cette aide, redoutant qu'ils ne soient arrêtés par la police et renvoyés dans leur pays d'origine.
Cameroun, de nombreux journaux et débats radio et télévisés ont fait leur une sur la sortie de l'artiste Charlotte Dipanda. Dans notre magazine télévisé Vous et Nous avec Ekia Badou, pour la première fois, Charlotte Dipanda affirme qu'elle souhaite voir son pays avancer avec une nouvelle gouvernance.
Alors, j'ai le sentiment que quand je dis certaines choses en Douala ou en Bakakas, non, je ne sais pas. Bien que peu de gens comprennent, mais ça me paraît plus vrai, plus puissant, plus fort quand je le dis en ma langue.
Alors, vous êtes maintenant signé dans une grande maison de disques, Universal Afrique. Quels sont selon vous les avantages et les inconvénients d'être dans une telle maison de disques?
Alors pour une chanteuse comme moi, ça fait 10 ans que je chante et ma première signature en label arrive au bout de 10 ans. Donc il y a déjà un cheminement, un parcours. Donc une collaboration avec Universal Music Afrique, c'est vraiment de me dire effectivement, eux ils ont les instruments pour davantage développer la carrière d'une artiste comme moi. L'inconvénient, c'est peut-être de se dire bon, écoutez. Je suis déjà structurée d'une certaine manière, donc venez pas. En tout cas, ils ne vont pas avoir la même posture qu'avec un artiste qui commence, qui est en début de carrière. Donc, je pense que c'est vraiment du donnant-donnant, mais surtout être à l'écoute. Tant que l'objectif est vraiment de développer la carrière, parce que si Universal parvient à développer ma carrière, eh ben la structure se porte bien, l'artiste aussi se porte mieux. Donc, on est vraiment dans une relation de confiance, mais de beaucoup d'écoute en tout cas.
Est-ce que vous avez l'impression, Charlotte Dipanda, que votre notoriété a changé votre rapport à l'autre? Ou alors est-ce que ça a changé le rapport que les autres ou le regard que les autres ont vis-à-vis de vous?
Non, non. Enfin, c'est vraiment quand je rencontre des gens que je me rends compte que, bah oui, il se passe quelque chose dans ma vie. Mais je ne pense pas avoir changé. Le regard des gens a changé sur moi parce que, ils m'ont vu faire mes classes. Et puis effectivement, quand on est dans la télé des gens, ils nous voient dans la rue, ils se disent, tiens, elle est sortie de la télé, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais j'essaye de garder vraiment les pieds sur terre pour rester consciente de ma mission, parce que on est les 10 heures de la société, mais on n'a pas véritablement de... je vais pas me dire que je suis extraordinaire parce que je suis une chanteuse. Non, j'espère que ma manière de dire la société interpelle les citoyens camerounais, d'Afrique, du monde, et que en tant qu'humain, en tout cas, on a les mêmes quêtes. J'essaie juste de les traduire à ma manière.
L'artiste camerounaise Charlotte Dipanda qui s'exprimait pour la première fois sur la gouvernance dans son pays. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Josèle Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagno. Au micro, Claire Moragibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, Twitter et Instagram bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Matalambana bena nyami moto enu masin.
tout.